Des fonctionnaires de l'aide sociale ont coupé le 1 $ par jour de récompense que touchait Myriam Garcia-Cournoyer, une jeune trisomique participante dans un centre d'artisanat l'Outaouais. Et pire encore, on a décidé de lui retirer sur son maigre chèque l'argent qui était amassé. Évidemment, là, par petite poignée, là, hein, pas d'un coup. Et avec nous, pour comprendre les agirs du ministère responsable de l'aide sociale, Geneviève Guernier, coordonnatrice à l'interne au Front commun des personnes à cité sociale du Québec. Bonjour Geneviève.
Bonjour Benoît.
Rappelez-nous les faits sur cette inquiétante histoire de Myriam Garcia Cournoyer.
Alors, Madame Garcia Cournoyer travaille pour un organisme qui emploie des personnes avec des problèmes de déficience pour faire des objets d'artisanat qu'ils revendent. Et en échange, les personnes reçoivent un montant symbolique pour les remercier, mais aussi pour les encourager à continuer à maintenir leur activité. Ce montant symbolique n'est pas un salaire en tant que tel. L'organisme ne pourrait probablement pas payer salarier les personnes en respectant le salaire minimum. Et donc, il y a une espèce de compensation vraiment symbolique, mais qui a un impact sur le désir des personnes de continuer à maintenir leur activité. Et c'est ces montants-là qui ont été visés parce que la loi de l'aide sociale, la loi prévoit que les personnes qui reçoivent des salaires peuvent avoir un montant, par exemple, dans le cas de Mme Cournoyer, qui est au programme de solidarité sociale, elle aurait droit à un salaire de 100 $ par mois.
Mm-hmm. Au maximum.
Au maximum. Et tous les montants supplémentaires seraient coupés directement de son chèque. Dans ce cas-là, comme il ne s'agit pas d'un salaire et qu'il ne s'agit pas non plus d'un cadeau comme un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, les montants récurrents sont retirés purement et simplement.
Donc, c'est important le mot que vous utilisez. Aussitôt qu'on voit des revenus récurrents, même si c'est ridicule, ça, la loi le vise et l'enlève.
Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner, que c'est la loi qui prévoit ça, parce que la couverture médiatique a beaucoup, beaucoup visé les fonctionnaires bêtes et méchants qui auraient exercé trop de zèle, qui auraient exercé la loi aveuglément, mais c'est la loi qui exige ça.
Ouais.
C'est vraiment des personnes qui ont des commandes, qui ont des directives de leur direction, et ces directions-là reçoivent des directives du ministère, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où le bon ministre a corrigé ses fonctionnaires trop zélés. Mais la réalité, c'est que c'est le bon ministre qui est responsable de faire exercer cette loi-là.
Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de pouvoir. On n'est pas obligé d'expliciter en quoi, mais avec les différentes modifications, il y a toujours eu davantage de pouvoir, ce ministre-là.
Tout à fait, tout à fait.
Parlons du bon ministre Blais, alors. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dont il ne serait pas responsable et que vous trouvez qu'il y a des correspondances avec cette histoire-là de Mme Garcia Cournoyer?
Bien, c'est-à-dire que nous, ce qu'on observe dans à peu près toutes les situations, on a tout le temps la sensation qu'il y a un dérapage continu. Moi, ça fait 6 ans que je travaille dans ce milieu-là et je sens une dégradation, puis je l'ai vu confirmer cette dégradation-là par des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi.
Ouais.
C'est une loi qui est très large, qui est très vague et qui est prévue comme telle, on nous dit, parce que ça doit laisser plus de marge de manœuvre aux agents qui sont en contact avec les personnes. Mmh. Les agents qui sont censés connaître les personnes pour qui ils travaillent, avoir le dossier en main, savoir quelles sont leurs compétences, les possibilités pour ces personnes-là. Mais la réalité, c'est que les agents ne connaissent plus du tout les personnes avec
souvent,
qui ils travaillent.
Souvent, ils peuvent avoir combien de personnes à leur charge, combien de dossiers sur leur responsabilité, des centaines.
J'avoue que je ne le sais pas, mais nous, on était en contact.
J'ai déjà entendu parler de 3000 il y a longtemps. Mais non. Mais
on
donc...
rit, mais ce n'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle du tout. En fait, donc, on comprend le contexte général. Vous, comme intervenante, même si vous êtes un regroupement, donc vous regroupez des intervenants, si on peut dire, vous avez constaté d'autres applications aussi strictes que celle-là. Peut-être que vous pourriez nous en parler.
Bien, par exemple, je pense tout de suite au cas de la notion de vie maritale, qui est en fait un espèce de mariage fiscal de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an. Il y a certains critères, là, par exemple, le fait que les voisins, amis, famille considèrent que la personne est un couple et le fait que les deux personnes s'entraident. Ce qui fait que des personnes qui sont des colocataires, qui se connaissent à peine, mais qui décident de partager, par exemple, les frais pour l'épicerie, l'un garde l'enfant de l'autre, l'autre fait un peu l'organisation du budget de l'un. Ces personnes-là s'entraident. Il y a de l'argent qui transite dans le compte de l'un et de l'autre. Mais s'ils sont à l'aide sociale, après un an, ils peuvent être mariés fiscalement, on va dire ça comme ça, considérant la notion de vie maritale, ce qui fait qu'ils vont recevoir non pas deux chèques, mais un chèque conjoint.
C'est une grosse coupure qu'ils vont vivre.
C'est le quart de leur revenu.
Mais dans le cadre, disons, de revenus de travail à la journée ou de compensation quelconque, est-ce qu'il y a d'autres exemples de gens qui auraient vécu le couperet comme ça?
Ben en fait c'est quelque chose qui revient beaucoup.
Comme des femmes, par exemple, qui ont exercé même...
Ben, oui, on parlerait, par exemple, de la situation des femmes qui font du travail du sexe, qui font de la prostitution, qui se voient, en fait, un peu obligées là, de montrer leurs revenus aux agents. Elles vont être appelées au bureau, on va leur dire que c'est impossible qu'elles arrivent, considérant leur loyer, leurs dépenses mensuelles et le chèque qu'elles reçoivent. Et donc, l'agent les coince un peu et elles finissent par avouer, oui, j'ai fait du travail du sexe. Et donc, l'agent essaie d'évaluer avec la personne quel montant elle le fait mensuellement.
Ouais.
Et à partir de cette évaluation-là, évidemment, il n'y a pas de facture, il n'y a rien pour prouver, donc c'est une approximation. La femme va devoir rembourser ces sommes-là intégralement parce que c'est des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration.
Mm-hmm.
Donc, elles doivent être coupées complètement du chèque. Et ça, ça fait que les femmes s'endettent énormément des sommes approximées.
Et comment sortir, disons, en parlant de la situation, ces dames-là, ces femmes-là,
elles
veulent se sortir
de
ce travail. Voilà, elles sont obligées d'aller là. Mais il y a même une histoire qui avait été soumise à notre attention l'année dernière qui nous avait grandement choqué. Cette femme en situation d'handicap qui mendiait et qui s'est vue retranchée, étalée sur plusieurs chèques, on peut l'imaginer, mais retranchée 25 000 $ suite à des estimations. Ça, vous avez constaté ça aussi. Est-ce que c'est un peu le même genre d'application qu'on a fait des règles?
Mais je pense que c'est la logique, c'est l'esprit de la loi qui est exercé à ce moment-là. Ça s'est rendu quand même assez loin. Ça a passé dans les journaux. Et puis, la loi n'est pas dérangée par ce genre d'exemple-là. Ça paraît mal pour le ministre, ça paraît mal politiquement, mais c'est tout à fait dans la logique. Et les fonctionnaires qui ont fait ce travail-là, même si moralement on a envie de les condamner, bien, ils répondent aux commandes qu'on leur donne et ils agissent conformément à la loi, effectivement.
Mmh.
Donc, on sait que c'est une femme qui vivait dans une grande pauvreté et qui maintenant se retrouve avec une dette qu'elle ne pourra jamais rembourser.
Voilà.
C'est certain qu'il
voilà.
va mourir avec une dette, qu'il va payer en fait probablement seulement les intérêts de sa dette jusqu'à la fin de sa vie.
Et supposons que les gens qui nous écoutent, là, ou n'importe qui serait bénéficiaire de l'aide sociale et qui vivait des injustices comme celle-là, qu'est-ce que vous leur recommandez? Qu'est-ce que vous leur dites?
En fait, contacter un groupe de défense collective des droits des personnes assistées sociales, c'est vraiment très, très important parce que les agents ne sont pas en mesure de donner l'information, de donner leur juste. Là aussi, il y a des questions de commandes puis de directives. Les groupes de défense des droits sont là pour ça, précisément, pour informer les personnes, pour leur donner le moyen de prendre leur propre défense, pour les soutenir dans cette défense-là. Et ils ont évidemment la connaissance fine des lois, les ressources pour pouvoir les appuyer.
Donc, on repère, pour trouver ces groupes de défense collective des droits des personnes assistées sociales, on repère votre site web fcpasq.qc.ca. Donc, on va trouver la rubrique « À propos » du FCPASQ. Et dans le menu déroulant, on pointe sur « Membres ». Donc, on va retrouver par région le groupe qui pourrait nous aider à nous défendre. Merci beaucoup, Geneviève Guernier, du Front commun des personnes assistées sociales du Québec.
Merci.